أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
L'islam, l'ulum islamiyya, je ferai en sorte pour les prochaines fois de faire plus court pour ces deux parties, parce qu'en plus c'est les plus techniques, et là j'ai pris un peu trop de temps, mais vous subissez la dimension expérimentale, parce que je devrais le faire avant à Paris demain et à Bruxelles, mais je vous promets que le mois prochain je le ferai plus court et plus léger, même si je pensais que c'était très léger au moment où je le préparais. Bien, sujet très délicat, parce que mal compris et souvent mal approché par les musulmans, c'est la question de l'islam et la politique. Alors, il est évident de ce point de vue-là que quand nous parlons de là où nous nous trouvons, il faut que nous soyons très clairs. Il faut que nous soyons très clairs en tant que musulmans, parce que il faut l'être pour nous-mêmes et il faut l'être pour nos interlocuteurs. Parce que certains d'entre nos interlocuteurs, quand ils nous entendent parler, ou quand ils entendent certains de nos frères, certaines de nos sœurs, quand ils disent de cette façon assez rapide, il n'y a pas de différence entre nous, pour nous, entre l'islam et la politique, ce qu'ils disent, même si parfois c'est clair pour eux, ne l'est pas pour ceux qui les entendent. Pourquoi ? Parce que dans le référent de l'histoire occidentale, et même dans le nôtre, parce que pour certains ce n'est pas clair dans le nôtre, le politique et le religieux, au sens de le lien entre Dieu et la créature, sont de deux domaines différents. Alors prenons le premier point. Existe-t-il une différence entre la religion et la politique ? Et je fais exprès de commencer par faire référence au cadre dans lequel nous sommes ici en Europe. Qu'est-ce que la religion et qu'est-ce que la politique ? Je vous avais dit, juste à titre indicatif, que est dit qu'on a traduit par la religion, c'était plus que la religion, c'était une conception de la vie, un mode de vie, et une relation, bien entendu, avec Dieu dans toutes ces dimensions-là, et un culte, une pratique. Quand nous utilisons le terme religion, ce qui est entendu, c'est tout ce qui détermine le rapport du Créateur avec sa créature, est la réponse de la créature au Créateur. C'est en fait quelque chose qui se traduit autour de Dieu. Le dogme et l'autorité. Le dogme, un Dieu est qu'avec le fait de croire en Dieu, il y a des choses qui sont demandées à l'homme par l'autorité divine. L'autorité divine, et qui ne se discute pas. C'est-à-dire, c'est un rapport, et nous on le connaît bien en islam quand on parle de simplement la compréhension générale de l'islam, de soumission. Mais c'est d'abord l'ordre de la foi, la religion, l'ordre du cœur. Or, quand on fait référence au domaine de la politique, ce ne sont pas les mêmes référents qui viennent. politique ou gestion de la cité, ou gouvernement, ou orientation des affaires de la cité, n'entre pas du tout sous l'angle de la foi, encore moins sous l'angle du dogme, et encore moins dans le référent occidental, sous l'angle de la stricte soumission et autorité. Bien entendu, certaines gestions politiques peuvent être amenées à se traduire de cette façon. Mais au départ, l'idée est la gestion du fait de la cité, du port, au travers d'une orientation qui le, ou d'une structure qui gouverne et qui oriente. Et on a traduit, si est ça, par politique, ce qui est en fait un petit décalage par rapport à, au terme strictement arabe, parce que dans le terme strictement arabe, il y a l'idée d'orientation, de guidance, de guide, plutôt que de gestion strictement. Et ça c'est intéressant, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails terminologiques et des détails de traduction. Gardons ça aujourd'hui pour dire simplement, dans le référent, le religieux, c'est l'ordre de l'autorité, de la soumission par la foi, alors que le politique ferait référence à la gestion et surtout fait appel à une autre dimension. C'est la raison, une autre faculté. Une autre faculté. Alors, en fait, jusqu'au Moyen-Âge, la dimension de l'Église et de l'État ensemble laissait se traduire que l'ordre du religieux, qui est hiérarchique, quand il entre en politique, développe exactement la même structure hiérarchique, et il n'y a pas besoin de savoir l'opinion de la base, puisque tout se décide en par ordre, par les nombres d'autorité. Alors, quand on a cette vision-là, il est évident que quand vous dites simplement avec vos mots, en islam, il n'y a pas de différence entre religion et politique, ce que nous sommes en train de traduire dans l'ordre global, pour des oreilles qui ne sont pas habituées à la terminologie et aux référents musulmans, parce qu'il faut en dire un mot, on en dira un mot tout à l'heure, en fait, vous voulez faire et gérer la cité par la foi que vous avez selon le dogme que vous croyez sans tenir compte de la raison que nous avons et que de l'organisation que nous avons. C'est en fait un ordre qui viendrait hiérarchiquement par le mot, imposer par le dogme une vision du monde et une vision de la gestion du fait social et politique. Et quelqu'un qui comprend cela ne ment pas sur ses références. Ça a été vécu pendant 15 siècles de cette façon-là, et dans le référent chrétien, catholique, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est la séparation de la foi de la raison qui va libérer la raison, parce que la foi n'est libérée par une structure hiérarchique de l'Église qui imposait par le mot sa structure. Donc, quand on parle de ces mots-là, ou quand on les emploie, il faut faire très attention à la façon dont on s'exprime, et surtout savoir une chose, les mots qui sont au bout de vos lèvres ne sont pas ceux qui entrent dans l'oreille de votre interlocuteur. Donc, première dimension de deux ordres qui se confondent et qui se mélangent. Alors, que dit cela par rapport à ça? Est-ce qu'effectivement c'est de la même teneur? Alors, très étonnant, mais ça je ne dis rien de nouveau, si vous voyez un certain nombre de nos savants, en particulier Drezel, mais également Ibn Rushd, mais également Ibn Sina, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la distinction qui existe dans la tradition chrétienne, ou qui a existé historiquement, et qui a voulu séparer ces deux domaines, et qui a été fait dans la douleur, existe en islam, mais de façon complètement différente. En fait, elle existe dans deux sphères qui sont différentes. Dans ce qui s'appelle religion, qui est le lien avec le Créateur, l'islam dit une chose. Et dans ce qui concerne les affaires sociales, et ça me dit une chose. Et vous savez où il faut aller chercher cela? Il faut aller chercher cela dans la jurisprudence. La façon dont est géré le faire, la jurisprudence islamique. Et en fait, qui fait de la jurisprudence islamique s'aperçoit qu'il y a deux chapitres. Le premier chapitre, c'est la règle de la dette. Et le deuxième chapitre, c'est les droits de la dette. Ce ne sont pas les chapitres, ce sont les parties. Et la règle de la dette, c'est le culte. Le témoignage qui vient d'Allah, de Dieu comme mort, la ilaha illallah, comme le nom de Shahad. Puis ensuite, le salat, le zakat, saoum Ramadan, et puis le hajj. On a ces éléments. Puis ensuite, on a dans les mu'amalat quelque chose de particulier. Et regardez, c'est très étonnant. Et ça, on n'insiste pas, parce que chaque musulman devrait savoir ça. En fait, il est absolument interdit en islam d'utiliser et de considérer qu'il faut avoir la même attitude avec les ibadat qu'il faut l'avoir avec les mu'amalat. Je vais vous donner un exemple. Dans les ibadat, les seules choses qui sont prescrites, qui sont permises, c'est les choses qui sont prescrites. C'est-à-dire qu'on ne doit faire que ce que le prophète a dit qu'il fallait faire. Donc, ce qui est permis a été prescrit. Exemple, la prière, sans nous, Kamer Aïkoumouni ou Sonou. Priez comme vous m'avez compris. Donc vous faites ce qui est prescrit. Dans les ribadettes, c'est l'ordre qui a dit exactement ce qu'on doit faire. C'est donc un principe d'autorité. Ça répond à la religion dans la tradition chrétienne. Dans les mu'amalat, c'est exactement le contraire. Ce qui est prescrit, c'est ce qui vous est interdit, tout le reste vous est permis. Là, ce qui est prescrit, c'est ce qui est permis. Là, ce qui est prescrit, c'est ce qui est interdit, tout le reste est permis. C'est-à-dire que dans les mu'amalat, la permission est l'essence première, le divaharia as, et la limite vient dire l'interdiction. C'est-à-dire que le champ du libre ici est premier, et le champ de l'interdit est second. Alors qu'ici, le champ du permis est prescrit et tout le reste est interdit. Alors quand on parle à quelqu'un de religion, lui, dans la tradition chrétienne, il comprend que c'est le premier. Or nous, on ne parle pas de ça. On parle du deuxième. Nous, ce qu'on dit, c'est le deuxième qui nous intéresse. C'est-à-dire que c'est l'ordre du permis et qu'il va y avoir quelques limitations. Quand je dis plus clair, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien une différence dans notre rapport à Dieu et la gestion avec les hommes en Israël. C'est que dans notre rapport à Dieu, on ne doit faire que ce qui est prescrit. Et que dans nos rapports avec les hommes, tout est permis sauf ce qui est strictement et précisément interdit. Et que dans ce domaine-là, on n'a pas des éléments précis, on a des qawa'id 'amma. On a des orientations générales. Et que dans ce domaine-là, vous avez quelques principes généraux qui vous sont donnés et que l'on doit appliquer à un contexte selon un temps donné. Et en fait, la liberté première, quelques prescriptions, et l'homme doit réfléchir rationnellement à les appliquer. En fait, quand on parle à quelqu'un qui n'est pas de tradition musulmane, il ne peut pas comprendre ça. Lui, il pense que quand on parle d'islam, on parle que de l'ibadat. Vous voulez qu'on agisse en politique comme vous agissez dans vos prières. Soumets-toi, réfléchis pas, fais que ce que tu as. Non. Nous, il y a toutes les parties des affaires sociales où nous avons dit que vous avez les grands principes, les règles fondamentales. Et à partir de ces règles fondamentales, le juriste doit utiliser ça. En clair, il n'y a pas de ibadat dans l'islam sans intelligence humaine. La mu'amalat bidoun aql. Pas d'affaires sociales sans intelligence. Ça veut dire qu'en fait, dans la partie des mu'amalat, dans tout ce qui concerne la dimension du politique, elle concerne ça. Et alors qu'est-ce qu'on dit nous-mêmes? Quelle est la réponse de l'islam à ça? C'est de dire effectivement, il y a une différence entre le culte et la gestion sociale et politique. La différence, c'est que le culte, tout y est prescrit. Et que c'est l'ordre, c'est le dogme, ça ne se discute pas. on ne commence pas à dire, moi je pense qu'il faut prier comme ça, et puis on verra demain, et puis comme ça. Ça ne va pas. Dans la gestion du social, des affaires sociales, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des grandes règles. Et c'est ce qu'on trouve dans le Sharia, des grandes règles. Ensuite, ce qui nous est demandé, ce que font les savants, c'est en fonction de ces grandes règles, de les appliquer en fonction du temps et en fonction du lieu, selon le contexte dans lequel ils sont. Et alors, quand vous dites ceci, vous déroutez votre interlocuteur. C'est-à-dire qu'en islam, le Coran renvoie les grandes règles générales et demande aux hommes d'utiliser leur raison pour pouvoir l'appliquer selon leur contexte. Et ça s'appelle jurisprudence, ça s'appelle la législation. C'est l'islam a commencé par ça. L'islam n'a jamais commencé par une théologie, c'est une raison appliquée. Et toutes les raisons rationnelles qui sont produites par la raison sont islamiques. À partir du moment où elles respectent les règles générales. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter ça dans une perspective islamique? Eh bien, très simplement. Nous faisons une distinction de tout ce qui a à voir avec le culte, ce que je viens de dire. Et dans ce qui concerne notre perception du politique, il faut dire trois choses. La première des choses, c'est que le Coran et la tradition du prophète Al-Sassalam nous donnent des orientations générales. Elles sont révélées pour nous. Elles sont des orientations générales qui ont un certain objectif. Ce qu'on trouve dans le solitaire, on verra le marasé des objectifs. Deuxième élément, ces objectifs généraux sont inapplicables sur le plan géographique et historique sans l'intelligence des hommes qui doivent les appliquer. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver des réponses dans leur société, qui soit fidèle aux principes, mais adapté au contexte. Oui, l'intelligence au travail. Et que le Coran et la tradition du prophète al-Sassalam ne donnent pas de forme déterminée du politique. Il n'y a pas une forme déterminée en vous disant ça doit être comme ça. Non. En 1920, peut-être que l'organisation du politique, disons en 1500, l'organisation du politique pour répondre aux règles générales du Coran pouvait être comme ça. En 1920, elle était une autre chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore une autre chose. Notre intelligence en fonction du contexte doit penser intellectuellement les structures qui permettent de rester fidèles aux règles générales de l'islam. Eh bien, quand vous dites ceci, vous troublez beaucoup la perception qu'on en a. C'est-à-dire que pour un musulman, il ne s'agit pas de transformer l'action politique en une intervention par le dogme. Il s'agit clairement de se référer au Coran et à la tradition du prophète, en ce qui nous donne des règles générales, et de les appliquer rationnellement au lieu où l'on est. Alors, quels sont les éléments de base de l'approche du politique en islam? On va en retenir quatre. Et immédiatement tirer des conséquences pour nous, ici en France. Premier élément, la priorité du droit. Toute société musulmane est fondée sur le droit. La priorité du droit. Alors quand on dit, moi, on m'interpelle parfois, je pense que vous, de la même façon, on dit « Oui, mais nous sommes dans un état de droit. » Eh bien, un musulman ne peut pas concevoir autre chose qu'un état de droit. C'est dire la trahison d'un certain nombre des pays majoritairement musulmans. Où c'est tout sauf un état de droit. C'est l'état du non-droit, et surtout le droit du plus fort. Bien. Premier élément, état de droit. La priorité. Deuxième élément, c'est évident sur la base des sources, j'ai pas le temps de l'appliquer ici, et ça fait l'objet d'écrit. La dimension du social est fondée, la dimension de la gestion du politique est fondée sur la notion de pluralisme. Ceci est clair dans Eshura. Wa amrun shura bainahum. Consulte-les dans les affaires, ceux qui discutent ensemble de leurs affaires. Si on discute ensemble, c'est pas qu'on est tous de la même opinion. Alors, ça n'a rien à discuter. Eh bien, par le fait qu'il y a choura, il y a forcément comme fondement du politique la notion de pluralisme. État de droit et pluralisme. Mais regardez ce que je suis en train de vous dire. Ce sont les éléments fondamentaux. Ensuite, il va falloir trouver en islam, par rapport à ces éléments-là, une façon de rester fidèle à ça. Mais les principes ne sont pas si éloignés que ce que parfois on nous traduit dans d'autres situations. La seule différence, mais fondamentale, bien entendu, c'est la référence première pour nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas une référence pour nous interdire de penser, il nous donne une référence pour nous dire vous êtes obligé de penser pour les appliquer. Troisième dimension, et là c'est peut-être là où on va se distinguer un tout petit peu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la gestion du politique, pas de gestion du politique en islam sans compétence. Le fondement nécessaire de la compétence de ceux qui justement s'occupent des affaires politiques. Alors, c'est autant la compétence sur le plan religieux, à savoir la connaissance des sources, que la compétence au niveau des affaires sociales. Troisième dimension. Quatrième dimension de la gestion du politique en islam, c'est la contextualisation. C'est-à-dire tenir compte de l'état d'une société pour formuler des structures qui lui permettent d'être adaptées aux principes. En d'autres termes, si j'arrive maintenant, je prends un exemple au hasard. Pour vexer personne, je vais prendre l'exemple de l'Égypte. Ça, ça contextualise bien par rapport à celui qui intervient. Si j'arrive au sud de l'Égypte, tout moyen d'alphabétisation, plutôt de d'illettrisme et d'analphabétisation, 60 à 70%. J'arrive. Et je dis voilà, je vais développer un projet politique. J'ai des gens qui ne savent pas lire, pas écrire, et en deux mois, comme ça s'est fait en Afrique noire, je dis voilà, vous avez le choix de choisir les gens qui vont vous représenter, et puis on va faire des élections libres. Cette réalité, en apparence, elle est séduisante. En Afrique noire, elle a montré énormément de défaillances, c'est que comment voulez-vous choisir quand pendant des années vous n'avez pas eu le choix et qu'en plus vous ne savez ni lire ni écrire, vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir une opinion politique. On va vous manipuler, comme ça s'est fait en Amérique du Sud, en Afrique noire. On vient, on vous dit, tu votes pour moi, je te donne 3 tickets pour le rationnement de l'air, et ils votent pour vous. C'est pas une opinion qu'ils donnent, c'est des intérêts qu'ils vont, et des intérêts matériels. Et ça, on peut acheter tout le monde. Pour un projet de type politique pour un musulman, ou une musulmane, ça va être dire il ne peut y avoir d'opinion exprimée politiquement, socialement, que si en même temps on développe une conscience politique, qu'on développe l'alphabétisation, qu'on développe un vrai travail de base, sinon on est en train de mentir. Bien, cette réalité-là, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, on laisse les gens voter et on les manipule. Donc, en islam, l'idée de la contextualisation est fondamentale. Je répète donc, et je conclue là-dessus, 1, le droit. 2, le pluralisme. 3, la compétence. La compétence, c'est-à-dire que celui qui se présente, c'est pas moi, je me présente parce que je pense que moi, je suis le meilleur pour être moi à la tête. En islam, le prophète al-Islam a dit, celui qui veut un poste, on l'écarte. La compétence est toujours reconnue par d'autres, sauf si, et c'est un cas qui apparaît quand même, effectivement, il est manifeste que vous êtes le plus compétent. Ça, c'est apparu. Il a dit les Shanaï, c'est Yusuf alayhi salam, qui se propose lui comme étant le garde des réserves de Pharaon. Mais, hors ceci, dans la généralité, c'est toujours la compétence reconnue par les autres. Et la contextualisation est importante aussi. Ça veut dire quoi, en fait, pour nous, ici en France, dans notre dimension politique? Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que certains d'entre nous, ne comprenant pas cette dimension large, finissent par tout mélanger, même dans leur repère en France. Là, je vous ai parlé de dimensions qui sont globalement pour nous des projets. Quand nous sommes en France, et que dans cette dimension-là, il y a effectivement, pour beaucoup d'entre vous, le fait d'être citoyen ou résident en France, mais pour la plupart d'entre vous, citoyen. Le fait qu'à l'intérieur de vous-même, vous ayez la foi, que ça illumine votre réflexion sur la société, que ça vous donne trois choses, fondamentalement. Un, la volonté de vivre votre spiritualité et de la protéger. Deux, la volonté de changer cette société pour plus de justice et plus de participation. Trois, la possibilité d'entrer en interaction avec une société sur la base de vos droits qui sont les droits du citoyen français. Eh bien, quand on a ces trois choses en tant que musulman, et que l'on sait, parce qu'on en a parlé la dernière fois, surtout ce qui concernait l'intégration, qu'on a le droit de rester en Europe et qu'on a le devoir de participer, eh bien, ça va développer trois choses. Un, notre cadre de référence en France comme ailleurs, c'est le droit. Deux, fondamentalement, le pluralisme ne nous gêne pas, qu'il participe de nos références dans la pluralité que nous vivons ici, dans la pluralité que nous allons défendre dans ce pays. Trois, nous avons montré qu'il y avait la compétence à acquérir. Alors je me retourne vers mes frères et mes sœurs qui vivent en France. Notre compétence, où se trouve-t-elle? La connaissance des lois mal connue des musulmans vivant en France. La compétence de leur localité mal connue des musulmans vivant en France. La connaissance des institutions françaises mal connue des musulmans vivant en France. Les projets, les dynamiques de la société française, les enjeux pour la société française dans le proche, le court, le long et le moyen terme mal connus des musulmans vivant en France. En d'autres termes, l'engagement est un impératif, mais les compétences sont également acquises. Ça demande à ce que chacun et chacune d'entre nous ici vivant en France, avec une bonne compréhension de ses sources, la foi qui lui mène son cœur, connaissent le cadre dans lequel nous sommes, connaissent les dynamiques, connaissent les problèmes, et cherchent la compétence pour soi, et quand il n'y a pas de compétence spécifiquement musulmane, aille la chercher ailleurs. Et d'ailleurs, à la haine, c'est que le prophète, quittant la Mecque pour aller à Médine, au moment où on est en danger de mort, s'appuie sur un non-musulman qui est mouchrik, qui est un polythéiste, qui n'est pas musulman, pour lui dire « Fais-nous sortir de là, parce que tu as les compétences. » C'est, encore une fois, Ahmad ibn Hanbal, radiallahu anhu, à qui, connaissant quelqu'un, dit « Celui-ci est compétent », on vient lui dire « Oui, mais celui-ci n'est pas ça. » C'est-à-dire que c'est un pervers, je ne suis pas la religion. Réponse d'Ahmad, c'est de dire « Il n'est pas ça, c'est pour lui, ça le regarde, ça entre lui et Dieu, mais c'est compétent, c'est pour nous. » Alors que nous, musulmans, quand on voit quelqu'un comme ceci, si on voit que ça ne nous plaît pas tellement, on jette lui, des compétences et toute la famille. Alors que la réalité, c'est que parmi celui qui était le plus exigeant, Ahmad ibn Hanbal, et bien lui, il prend la qualité et lui dit, les défauts, ça te regarde, les qualités, ça nous appartient. Parce que tu appartiens à cette société. Eh bien nous, ici, développer nos compétences communautaires, mais développer les compétences qui sont à côté de nous. Vous avez des gens dans votre totalité qui sont très compétents. Ils sont peu compétents politiquement. Si vous pouvez nous appuyer sur leurs compétences, appuyez-y vous sur leurs compétences, mais avec intelligence. La foi ne veut pas dire déficit d'intelligence. Au contraire, on l'a dit au début. Plus on a de la foi, plus on développe une intelligence dans le cadre qui est le nôtre. Ça veut dire que les musulmans vivant en France, cette dynamique-là, elle est fondamentalement important, et puis surtout la contextualisation qui doit être à l'autre en permanence, ne pas commencer à rêver, regarder comment est la situation en France, et inch'Allah, pour l'avenir, réussir à développer une réflexion d'État, rationnelle, pensée, et je vais vous dire une chose, je termine là-dessus pour aujourd'hui, je rencontre aujourd'hui énormément, mais je suis pas le seul, beaucoup ici en rencontre, énormément d'interlocuteurs qui n'ont pas compris. Vous savez ce que je viens de vous dire là? La petite demi-heure que je viens de prendre pour vous expliquer l'articulation de la foi et de la raison pour nous dans le domaine politique, ils n'ont pas compris. Ils ont l'impression que nous, en tant que musulmans, on arrive en voulant imposer un dogme et non pas appliquer un travail rationnel. Eh bien, ça me permet de vous dire qu'aujourd'hui, si nous prenons plus de temps pour expliquer ces choses-là, et surtout que nous montrions là où nous nous trouvons, que nous avons compris l'espace dans lequel nous vivons, que nous allons développer des compétences, que nous allons nous engager en tant que citoyens à développer des relations avec notre environnement basées sur le contexte, dans tenant compte du contexte et basées sur les compétences, Inch'Allah, on développe exactement ce que sont nos sources. Mais j'aimerais bien vous dire une chose, parce que vous l'entendrez chez certains des frères. Certains pensent qu'en s'engageant de cette façon-là, on trahit nos références. Absolument. Je l'ai dit au début de la rencontre aujourd'hui, au début de ce cours, au début de ce séminaire, on ne fait pas de commerce sur nos principes. Nos principes sont nos principes, nous les respectons. Et le dogme de l'unicité divine, nous le respectons. Et la volonté de respecter notre foi est ancrée en nous. Mais ce que nous a enseigné le prophète, c'est qu'une foi se lie avec l'intelligence du contexte. Et que notre contexte, c'est pour nous de nous engager intelligemment à défendre nos droits, à prendre nos responsabilités, à participer rationnellement, intellectuellement, et surtout une chose, à développer les compétences. Alors, je renvoie à chacun d'entre vous ici. Récemment, on demandait à un chef, dans une émission, on disait, mais finalement, est-ce que tout le monde ne devrait pas faire que des sciences religieuses? Et il répond, la vraie communauté musulmane, c'est celle qui comprend qu'à quelques savants doivent se multiplier des compétences dans tous les domaines des affaires sociales. Nous manquons énormément aujourd'hui de compétences dans tous les domaines. Mais attention, nous avons énormément de compétences dans la communauté musulmane aujourd'hui. Le problème, c'est que ces compétences pensent qu'il faut s'éloigner de la communauté pour être reconnu. C'est parce que nous ne savons pas en tirer parti. La réalité aujourd'hui de notre vrai travail à l'avenir, c'est de tirer parti de chacun et chacune. Et que chacun et chacune ici comprend que quand elle travaille avec les enfants dans des crèches, ou dans des associations, quand elle travaille dans les écoles, quand elle travaille ses compétences, frères et sœurs, dans l'ingénierie, dans les sciences, dans la médecine, toutes ces compétences-là participent d'une dynamique qui a compris et qui doit comprendre son contexte pour construire l'avenir, un avenir social, un avenir politique. Une charme, je vous en prie.
Maintenant, avant de vous laisser partir, une dernière information de nos frères de Valence. L'association culturelle musulmane des Bonnes Mœurs vous informe que dans la mosquée de Valence, le Coran, Hassan Yacoussen prend un axe le dimanche 23 novembre sur le Coran, la foi et la science. On vous remercie beaucoup au nom du collectif de votre patience, de votre discipline. Deux choses. Quand vous sortez, essayez de faire la même chose, c'est-à-dire avec elle, si vous êtes, on est dans le sixième. Donc, n'oubliez pas le 9 décembre, le 19 décembre. Le 19 décembre, ce sera le 4e cours. Maintenant, vous pouvez vous prendre.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
سجنا دلام ingatan jika kau baru dilahirkan bersama selawat didendang itulah tanda kesyukuran
sallallahu ala muhammad sallallahu